Le débat du jour.
Romain Ouzoui.
Bonsoir à tous. Ce samedi, cela fera 200 ans que Karl Marx est né. Plusieurs cérémonies à cette occasion sont prévues en Allemagne, le pays du philosophe et économiste, théoricien de la lutte des classes, dénonçant l'exploitation des travailleurs par le capitalisme. Marx est-il toujours vivant ? Dans le débat du jour, on va tenter de confronter ses thèses à la réalité d'aujourd'hui. Dans le contexte post-crise mondiale que nous connaissons, Karl Marx a-t-il ou non toute sa place ? C'est notre sujet ce soir. Et pour en débattre, nos deux invités en studio, Jean-Numa Ducange, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence à l'université de Rouen, dans l'ouest de la France, co-auteur du livre « Marx, une passion française ». Face à vous, Jean-Marc Daniel, bonsoir.
Bonsoir.
Économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, directeur de rédaction de la revue sociétale, revue éditée par l'Institut de l'Entreprise. Merci à vous deux d'avoir accepté l'invitation des RFI. J'aurais débuté ce débat par une citation, alors non pas une citation de Karl Marx, une citation d'une personne au contraire dont on pourrait penser qu'elle est à l'opposé de Karl Marx. L'économiste en chef de la banque Natixis, Patrick Arthur. Il a écrit dans une note, je cite, « La dynamique du capitalisme est aujourd'hui bien celle qu'avait prévu Karl Marx ». Fin de citation. Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est également votre lecture ? Karl Marx avait donc raison ?
Non, je ne pense pas. Je pense qu'effectivement, il y a une forme de marxisme, que j'appellerais un peu un marxisme mondain, qui consiste à chaque fois qu'on critique le système et qu'on considère que le système a des difficultés, des travers, dire que Marx l'avait déjà dit. Or, le dernier livre que j'ai lu et qui a été un peu référencé sur Karl Marx, c'est l'ouvrage d'un historien américain qui s'appelle Jonathan Sperber, et son livre s'appelle « Karl Marx, un homme du 19e siècle ». Et je crois que tout est dans ce titre, c'est-à-dire que la pensée de Marx est une pensée qui est assez marquée par son époque. C'est quelqu'un qui écrit dans des conditions où il est très très attentif à ce qui se passe. D'ailleurs, les textes que je trouve les plus intéressants sont ces textes qu'on pourrait qualifier de textes de journaliste. Et quand il fait de la théorie économique, puisque Patrick Arthus est un économiste, en fait, il s'appuie beaucoup sur les thèses de David Ricardo, qui est donc du début du 19e siècle, et avec une vision de David Ricardo qui est une vision très très microscopique. En fait, il s'intéresse à des détails dans la pensée de Ricardo. Il ne prend pas l'ampleur de ce que raconte Ricardo. Et donc, à la limite, et moi j'en suis convaincu, Ricardo continue à être pertinent, alors que Marx, justement, c'est la partie la moins pertinente de Ricardo qu'il a développée. Et donc, je pense que Marx, à part une référence mondaine, c'est bien de dire je suis marxiste, je suis marxien, les marxistes...
C'est une forme de mode, selon vous, aujourd'hui, quand on parle de mode, Marx.
C'est une façon de dire, écoutez, le système va mal. Et d'ailleurs, il y avait déjà quelqu'un qui l'avait prédit au 19e siècle, qui a annoncé que le système courait à sa perte. Mais depuis le temps qu'on annonce que le système court à sa perte et qu'il n'arrête pas de se régénérer, de se transformer, de se reconstituer, je pense que Marx est passé à côté de ce qui se passe vraiment.
Jean-Numa Ducange, est-ce que vous partagez ce constat? Finalement, c'est une illusion quand on parle de marxisme aujourd'hui.
Non, je ne partage pas.
Les idées sont trop ancrées dans le milieu du 19e siècle pour être pertinentes aujourd'hui.
Le livre de Sperber auquel il a été fait allusion est un livre intéressant sur le fait que Marx est, par certains aspects, extrêmement marqué, par son époque. Ce qu'il faut quand même dire, c'est qu'à la suite de Marx et Engels, vous avez eu toute une tradition marxiste, une tradition dogmatique, et aussi une tradition qui a su repenser les problèmes du nouveau capitalisme. Je pense, par exemple, au début du XXe siècle, lorsqu'il y a eu la première financiarisation du capital, la place grandissante des banques dans le système économique, un Autrichien, Rudolf Hilferding, qui se désignait comme un marxiste, non pas orthodoxe, mais un marxiste affirmé, a essayé de repenser le capitalisme et ses nouvelles tendances à la lumière du jour. Et on a eu régulièrement des penseurs comme cela. Si en 2008, lors de la crise des subprimes, on a vu un intérêt, à nouveau, pour Marx, même en termes de vente de livres. Le Capital a été remis
en
circulation.
Il est prouvé d'ailleurs, depuis la crise, il y a un regain d'intérêt pour Karl Marx.
Oui, et ça a toujours existé. Si vous voulez, demain, à Trèves, la ville de naissance de Marx, on aura même Juncker qui viendra faire un discours.
Est-ce que c'est pas paradoxal, ça?
Ça a toujours existé. Vous savez, le
président de la Commission européenne.
Oui, le président de la Commission européenne. Le premier compte-rendu du Capital de Marx en France, c'est un économiste libéral dans le Journal des économistes en 1872 qui en avait dit du bien pour dire, bon, au niveau politique, ça ne va pas du tout, mais au niveau de la capacité d'analyse globale du système, Marx est quelqu'un d'absolument exceptionnel. Donc d'un côté, je crois qu'il y a eu des renouvellements depuis Marx, de nouvelles analyses à partir de ses concepts, de toute une tradition marxiste, et de l'autre, vous avez même des partisans du libéralisme, dont celui que vous avez cité au départ bien évidemment, qui considèrent que Marx a encore quelque chose à nous dire. Et pour prendre un exemple un peu contraire par rapport à ce qui vient d'être dit, l'extension du marché mondial tel qu'il est présenté dans le manifeste du Parti communiste. Alors, c'est un texte politique avec des slogans. On peut bien sûr discuter de sa temporalité, la façon dont il s'inscrit dans une époque donnée. Eh bien, tout de même, il y a des phrases qui demeurent spectaculaires sur le fait que le marché va prendre de plus en plus d'ampleur, d'emprise sur le monde, alors qu'à l'époque, ce n'était pas si évident que cela. Il y avait des communautés traditionnelles qui n'étaient pas touchées.
Jean-Marc Daniel, vous partagez ce constat. Est-ce qu'il y a des éléments qui étaient annoncés par Karl Marx qui se sont produits 200 ans après?
Des éléments qui étaient annoncés, ils se sont produits, je pense pas.
Alors, l'écart de revenus entre les travailleurs, par exemple.
Oui, il y a des analyses qui sont des analyses, encore une fois, qui sont issues de Ricardo, et donc des analyses qui sont dans l'économie politique classique et qui continuent à vivre. C'est un économiste classique parmi d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que quelqu'un comme Rudolf Hilfarting, dont on vient de parler, qui a écrit un livre qui s'appelle effectivement Le capitalisme financier, est obligé d'actualiser Marx sur deux éléments. Il l'actualise sur le plan de ce qui se passe, de ce qu'il voit, c'est-à-dire le capitalisme des années 1900 n'est pas celui de 1840. Et puis, il actualise sur la méthode, parce que Marx, la critique qui a été faite de Marx par d'autres économistes autrichiens, comme Bumbaver, qui est un économiste libéral autrichien, est une critique où il est dit qu'en plus, Marx ne maîtrise pas certains outils que détiennent les économistes, comme les mathématiques. Et donc, on s'aperçoit effectivement que Marx a une formation de philosophe, et que l'économie qui va évoluer après lui est une économie qui va être de plus en plus mathématique, et dont une partie va lui échapper. Et donc, il est obligé d'avoir des disciples qui le réécrivent son propos, qui réagissent à partir de ses idées, parce que lui-même est dépassé à la fois par les événements et par la formation et la conceptualisation de ces événements par les économistes. Donc, il est effectivement, y compris sur le plan personnel, bloqué intellectuellement par rapport à une évolution de la formalisation même de l'économie. Alors après, par rapport à la mondialisation, ce qui est intéressant, c'est que Karl Marx, qui est un disciple de Ricardo, encore une fois, va avoir un rapport au libre-échange que beaucoup de marxistes affichés à l'heure actuelle seraient surpris de découvrir s'ils ne le savent pas.
Discours sur le libre-échange.
Il écrit un livre qui s'appelle Le discours sur le libre-échange, où il dit...
Finalement, il soutient le libre-échange parce que ça peut mener à l'effondrement du système.
Oui, voilà. Il soutient le libre-échange de face avec deux arguments paradoxaux. Le premier argument, c'est que les protectionnistes sont des gens qui sont conservateurs, ils ne peuvent pas s'associer à ces gens-là. Et de toute façon, le libre-échange va courir de fait à une forme de catastrophe du capitalisme. Et donc, ça va accélérer un processus qui est un processus qu'il appelle de ses voeux.
Donc, ça rejoint le paradoxe finalement que soulignait Jean-Numa Ducange, hein, l'idée qu'aujourd'hui, certains économistes libéraux évoquent le marxisme. Finalement, Karl Marx était déjà dans ce paradoxe.
Oui, dans cette forme de paradoxe où lui, il annonçait que le libre-échange allait tuer le capitalisme. Or, le libre-échange a plutôt favorisé la croissance économique. Les pays qui s'en sont le mieux sortis sur ces dernières années sont ceux qui, effectivement, ont choisi de s'insérer sur le marché mondial. Alors après, effectivement, le libre-échange, les critiques qui sont faites du libre-échange, notamment les gens qui se réclament de Marx aux États-Unis, disent mais ça crée effectivement des inégalités et ces inégalités vont conduire à cette révolte que annonce Karl Marx. Et Patrick Artus, c'est un peu son argument. Son argument, c'est de dire que ce qu'il y avait prévu chez Karl Marx, c'est que le capitalisme allait finir par générer de telles inégalités que ça allait pousser les salariés et les travailleurs à la révolte. Or, les inégalités sont là, mais la révolte n'est pas pour l'instant immédiatement au rendez-vous.
Il y a quand même eu une guerre mondiale, la révolution russe et un siècle de révolte et de révolution.
Mais cependant, Karl Marx,
aujourd'hui, il n'y a plus cette révolte.
Karl Marx avait prédit la chute du capitalisme. Le capitalisme est aujourd'hui toujours là.
Le capitalisme est toujours là. Personne ne va le nier absolument. Qu'à plusieurs moments de son existence, Marx ait sous-estimé la capacité du capitalisme à se sauver lui-même, ça, je crois que tout le monde peut être d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas oublier une chose qui était sous-entendue dans ce qui vient d'être dit, c'est que Marx, il faisait parallèlement à ses études d'économie, donc finalement, ce n'était pas sa formation, il faisait de la politique. Et il faisait de la politique pour renverser le système existant. Et je crois que dans le Marx politique, il y a aussi des choses intéressantes pour comprendre certaines traditions politiques à l'œuvre. Marx a beaucoup écrit sur la France, il y a résidé, c'était le pays des révolutions, donc c'était un des lieux où ça pouvait se passer, le changement social radical. Et il a notamment publié des choses intéressantes sur la venue au pouvoir de Napoléon III, donc la question du bonapartisme, comment une révolution se termine par un coup d'État. Et il a analysé les spécificités de la tradition politique française, en étant désespéré par le fait qu'un homme fort finissait par sortir d'une révolution et écraser les mouvements révolutionnaires. Donc, dans Marx, il y a bien évidemment à discuter les concepts économiques, la pertinence de les utiliser jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, bon, je suis historien, donc c'est des choses qui m'ont particulièrement intéressé. Il a accordé une grande place dans sa réflexion à la tradition républicaine française, à la tradition révolutionnaire et à cette étrangeté qu'est la continuité des Bonaparte. Et plusieurs marxistes au XXe siècle ont interprété De Gaulle comme dans la suite de tout cela, hein, quelqu'un qui fait une constitution très présidentialiste. Et dans les excès du présidentialisme qu'il y a depuis 50 ans, je crois que Marx, évidemment, est daté par certains aspects, mais peut encore nous dire des choses sur le diagnostic qu'il avait porté, très sévère, hein, sur la vie politique française.
Justement, en France, est-ce qu'on peut citer une personnalité qui se revendiquerait du marxisme, ou un mouvement, peut-être ?
Un homme politique d'aujourd'hui ? Il faudra aller leur demander. Mais bon, ce qui est issu du mouvement communiste, qu'il en reste plus exactement, la référence, j'ai regardé les communiqués des différentes forces politiques à l'occasion du bicentenaire. Bon, tout ce qui tourne autour de la mouvance communiste ou d'extrême gauche a encore une référence à Marx.
Marxisme, ce sont aussi de données de
oui,
choses différentes.
Oui, ce sont des choses différentes, parce qu'il est plus facile de dire du bien de Marx, parce qu'on peut toujours dire que c'est un grand économiste, que c'est un grand penseur, ce qui est indéniable. Je vous dis Juncker demain, enfin j'ai pas idée de ce qu'il va dire dans son discours, mais il va dire que il a déjà dit quelques mots en disant on ne peut pas ignorer Marx, bien évidemment, c'est un grand homme, c'est un grand penseur, mais tout cela
c'est moins l'engagement que le philosophe.
Oui, voilà, il y avait eu un débat, je me souviens, en Allemagne, au Bundestag, pour savoir tous les grands portraits des penseurs allemands. Et c'était posé la question, est-ce qu'on met Marx ? Et finalement, ils l'ont mis, parce qu'ils se sont dit, bon, certes, la politique, puis il y avait tout l'arrière-plan, Allemagne de l'Est, tout ce qui s'était passé pendant la guerre froide. Finalement, ils avaient choisi de le conserver. Donc, il y a un Marx, si je puis dire, respectable et respecté, ce qui, d'une certaine manière, l'aurait peut-être désespéré, parce que lui se vivait comme un ennemi du système, comme quelqu'un de subversif, et voilà. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier cette dimension très politique de la vie de Marx, car lorsqu'il écrit Le Capital, il est en train de batailler dans une internationale ouvrière pour imposer ses idées face à d'autres courants anarchistes. Donc, tout ça est un ensemble. Et parfois, je trouve que certains extraits, certains textes politiques ont peut-être paradoxalement mieux survécu que certaines analyses conjoncturelles où effectivement, ils pensaient que le système allait s'effondrer de lui-même. Mais beaucoup de marxistes ont pensé ça, que les contradictions allaient mener à sa perte.
Jean-Marc Daniel, on oublie un peu trop l'engagement politique de Karl Marx et qu'aujourd'hui la personnalité est davantage sacralisée.
Oui, je pense que la personnalité était sacralisée à tel point que on se réfère à lui sans véritablement le lire. Et donc, les gens essayaient de lire Le Capital, c'est une aventure de lire Le Capital. C'est-à-dire, l'Okhrana, c'est ce que racontaient les bolcheviks, c'est qu'ils ont pu accéder au Capital parce que l'Okhrana, donc le service politique tsariste, avait lu ce texte et avait dit c'est tellement incompréhensible que c'est pas la peine de le censurer, on peut le mettre en vente, ça n'aura aucun impact, personne ne comprend ce qu'il y a dedans. Et donc, le Capital est un livre assez touffu. En plus, il l'a pas véritablement fini. C'est-à-dire que c'est Engels qui l'a achevé. Et la fin des fins, c'est un socialiste allemand qui s'appelle Kautsky. Donc, il y a des contradictions. C'est une œuvre. Bon. En réalité, effectivement, là où je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est que je pense que l'œuvre journalistique, l'œuvre d'historien, l'œuvre d'homme politique engagé continue à exister. C'est-à-dire qu'on continue à éditer, à lire, donc, le livre sur Napoléon III, le livre précédent sur la Révolution de 1848 en tant que qui s'appelle les luttes des classes en France, la lutte des classes en France. Et donc, ces œuvres-là sont des œuvres qui sont intéressantes, mais qui sont intéressantes en tant que traces historiques et comme description d'événements historiques, dont l'impact à l'heure actuelle est moins important. La révolution de 1848, ça a quand même ça date maintenant. Beaucoup de gens d'ailleurs se souviennent plus exactement de ce qui s'est passé. Et l'impact sur la vie politique que nous connaissons est assez faible.
Bah, justement,
les interprétations que l'on peut faire des événements de 1848 sont désormais relativement déconnectées de la réalité de ce que nous vivons.
Politiquement, c'est davantage le contexte de crise, post-crise, on va dire, économique mondiale, qui donne l'illusion que les thèses de Marx sont aujourd'hui d'actualité.
Oui, je pense que ce qui est mis en avant au travers de Marx, c'est l'idée qu'on est en crise. Mot d'ailleurs qui est utilisé à l'infini sans qu'on définisse qu'est-ce que c'est qu'une crise. C'est-à-dire qu'une crise.
Les politiques d'austérité, par exemple, en Europe.
Ça supposerait qu'il y ait une situation de normalité. C'est-à-dire que serait la situation de normalité par laquelle nous serions en crise. C'est-à-dire, est-ce que c'est le plein emploi? Est-ce que c'est l'absence d'inflation? Est-ce que c'est la situation qu'on connaissait dans les années 60, alors même que c'était une situation de forte conflictualité sociale, où il y avait des marxistes affichés, il y avait un enseignement marxiste, il y avait des gens comme Althusser qui tenaient le haut du pavé et qui produisaient une pensée marxiste. Donc, c'est assez difficile. Je pense que Marx devient une sorte d'étendard des gens qui sont mécontents et qui pensent que ça va mal.
Les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, est-ce qu'ils sont marxistes ? Est-ce que c'est une incarnation d'une forme de marxisme ou est-ce que c'est une image, finalement, comme vous le sous-entendez, Jean-Marc Daniel ? Votre réponse, Jean-Numa Ducange.
Sur les groupes politiques, on va dire, de gauche radicale au sens large, qui ont une identité politique en réalité assez floue. Bon, quand même, Marx, et là, il faut dire qu'il faut le remettre dans son contexte, et ses différents interprètes au XXe siècle ont souvent respecté cela, à défaut d'avoir parfois ne pas respecté autre chose, pardon. C'est un homme de l'organisation politique. C'est un homme qui pense qu'il faut mener un combat politique, qu'il faut se présenter aux élections, qu'il faut faire des alliances. Pendant la révolution de 1848, Marx, tout un temps, n'est pas le gauchiste de service, hein. C'est plutôt celui qui veut faire des alliances avec la bourgeoisie libérale contre les classes réactionnaires qui, les féodaux, les aristocrates, qui retardent le développement économique, hein. C'est juste après le discours sur le libre-échange. Donc Marx est un homme de la stratégie politique et un homme qui pense fondamentalement que ce qu'on appelait la classe ouvrière, ce qu'on dirait le salariat dans des termes plus contemporains, doit être en capacité de s'organiser à un moment donné pour pouvoir contester le système ou au moins obtenir des réformes, parce que Marx n'a pas été qu'un révolutionnaire abstrait, il a aussi dans certains textes conçu la possibilité qu'il y avait des étapes, etc. Et tout ce qui est mouvement, si je puis dire, pour le dire assez rapidement, de contestant toute forme de hiérarchie, toute forme d'organisation,
donc, exemple, par exemple,
ça me semble assez
loin. D'accord.
Je ne dis pas que parmi
est-ce qu'on peut trouver une illustration concrète du marxisme aujourd'hui, que ce soit en France ou dans le monde, une incarnation.
Alors, après, il y a les gens qui se réclament du marxisme, si vous voulez. Formellement, le gouvernement chinois se réclame du marxisme. Alors, on peut dire, ça n'a rien à voir avec le marxisme tel qu'il était conçu en Europe. C'est au minimum extrêmement différent.
D'accord.
Mais ça existe. Et quand vous êtes dans une situation d'analyser historiquement les choses, vous pouvez pas faire totalement abstraction que, puisqu'il était question de pays qui sont sortis du sous-développement, et l'exemple le plus spectaculaire étant la Chine, que ce pays en est sorti avec un parti au pouvoir qui se réclame d'une idéologie marxiste depuis 1949, quand bien même cette idéologie a connu des variations spectaculaires.
La Grèce, mais aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'elle peut être d'influence marxiste? Est-ce qu'on peut dire ça?
Vous avez toute une série de groupes politiques intellectuels marxistes. Et vous aviez, alors je ne sais pas où ça en est, je ne suis pas non plus de très près les récentes évolutions de la situation grecque, mais Syriza, le parti au pouvoir, était une sensibilité, ce qu'on appelait euro-communiste. C'était les communistes réformateurs des années 70 qui essayaient de penser une transition autre que celle qui a été prônée longtemps par la voie soviétique. Donc il y a, ça n'a rien à voir avec les années 70 auxquelles on a fait allusion tout à l'heure, mais il y a quand même des héritages politiques dans différentes forces. Beaucoup de gens ont été formés par cela, même Tsipras. Alors on peut dire que effectivement, on pourrait critiquer un certain nombre d'aspects par rapport à d'autres traditions, mais tous ces courants-là viennent tout de même d'organisations communistes, néo-communistes, où la référence à Marx a eu un sens, et où souvent quand même ils l'ont lu, peut-être pas dans le texte, mais ils l'ont lu à travers des bréviaires, des formations militantes. Tout ça continue à exister. Vous avez ça même dans la CGT en France, en partie. Voilà.
Les syndicats, effectivement.
Les syndicats, pas tous.
Et vous, Jean-Marc Daniel, justement, votre point de vue sur l'incarnation de Marx aujourd'hui?
Je pense que ce serait très difficile, effectivement, de définir quelqu'un qui serait marxiste. Ce qui est intéressant, c'est que l'échec évident de l'Union soviétique et des pays qui se réclamaient du marxisme, c'est que la question s'est posée de savoir quelle était la part de responsabilité de Marx dans cette affaire. Là où il s'en est bien sorti sur le plan historique, c'est que tout a été concentré sur Lénine et surtout sur Staline. C'était, on a dit que tout ça, ça avait été...
C'est eux qui étaient au pouvoir, hein.
C'était pas lui qui était au pouvoir. À partir de ce moment-là, effectivement, je maintiens, ça devient une référence assez facile, qui consiste à...
On peut dire que c'est uniquement l'interprétation des écrits de Marx qui ont conduit à ces dictatures.
On s'aperçoit que lui, à titre personnel, ça a été dit, c'était quelqu'un qui était très engagé, il était capable d'être assez violent sur le plan humain. C'est-à-dire, il avait un comportement avec sa famille qui était un comportement que tout le monde jugerait tout à fait indigne en ce moment. C'est-à-dire, il traitait sa mère il traitait sa mère et sa femme de façon très violente. Bon, c'était un homme du 19e siècle, et dans les combats qu'il y a eu au sein de l'AIT, de la première internationale, il s'est comporté avec les anarchistes et les disciples de Proudhon et de Bakounine de façon très violente. Et donc il y a un certain nombre de gens qui disent, ne vous faites pas d'illusions, s'il avait été à Saint-Pétersbourg ou à Moscou en 1917, il aurait fait peut-être la même chose que Lénine. Donc vous le sauvez, vous le sauvegardez, parce que c'est un bel intellectuel, mais bon, il a eu la chance de ne pas avoir eu l'occasion physique de mettre en application les idées qu'il défendait et la façon dont il s'était comporté au quotidien.
Et à quoi ressemblerait du coup Karl Marx 200 ans après? La question reste en suspens. Merci beaucoup Jean-Marc Daniel, économiste, professeur associé à l'ESCP Europe, directeur de rédaction de la revue Sociétale. Merci à vous Jean-Numa Ducange.
Merci à vous.
Maître de conférence à l'université de Rouen, co-auteur du livre Marx, une passion française aux éditions La Découverte. Merci également à Florence Ponce et Arthur Tossou qui ont préparé ce débat avec moi, et merci à Claude Battista qui l'a réalisé. Restez à l'écoute de RFI dans 30 secondes, c'est le retour de l'info.